Good Morning Business, le journal.
8h30 sur BFM Business et sur MC Life, le journal avec Léo Dumas.
Et à la une, c'est raté pour la transparence salariale. La France a jusqu'à dimanche pour transposer la directive européenne adoptée il y a 3 ans par Bruxelles, mais elle ne pourra pas y arriver à temps, comme d'ailleurs 24 autres pays de l'Union. Alors en cause ici en France, les divergences entre partenaires sociaux, au regret de Marie-Lise Léon, la secrétaire générale de la CFDT ce matin sur BFM Business et RMC Life.
Beaucoup d'employeurs considèrent que c'est pas important et qu'il ne faut pas se poser la question 2-3 minutes pour essayer de trouver des solutions simples. Parce que je pense qu'il y a des solutions simples. Et puis, il y a la question culturelle. Je pense que il faut qu'on passe un cap. Et la CDT ne dit pas on va tous mettre nos fiches de paye à la machine à café. On
c'est
va
le médian, c'est le salaire
c'est
moyen.
Pas ça, c'est pas ça. C'est exactement constituer des échantillons et permettre aux salariés qui sont victimes d'écart de pouvoir voir que certains collègues... parce que ce sont des femmes qui peuvent constater que des hommes à travail de valeur égale gagnent plus qu'elles et qu'elles puissent mener des actions.
Marie-Lise Léon a réécouté en intégralité sur bfmbusiness.com. L'accord commercial conclu entre les États-Unis et l'Union européenne sera bien respecté par Washington.
C'est ce qu'est venu dire à Paris le représentant américain au commerce hier, Jamieson Greer, qui, il y a 2 jours, pourtant menaçait l'Union européenne de nouvelles surtaxes au prétexte qu'elle ne lutte pas assez contre le travail forcé, Hugo Babet.
C'était une clarification très attendue en marge d'un sommet de l'OCDE. Jamieson Greer, représentant au commerce du gouvernement Trump, a indiqué que les États-Unis se tiendraient à l'accord trouvé en 2025 avec la Commission européenne.
Nous considérons qu'un accord est un accord. Et si l'Union européenne respecte ses engagements, nous comptons respecter les nôtres tout en nous efforçant de remédier à toutes ces pratiques commerciales.
Une déclaration qui vient rassurer l'Europe au moment où Donald Trump, voyant ses droits de douane annulés par la Cour suprême, veut en imposer de nouveaux. Aux pays qui combattraient insuffisamment, selon lui, l'importation de biens issus du travail forcé. Chine, Japon, Inde, Mexique et plusieurs pays de l'Union européenne ciblés par Washington, alors qu'ils respectent, selon Bruxelles, les normes de travail les plus élevées au monde. Le commissaire européen au commerce a donc rappelé sa ligne rouge.
Il est absolument essentiel pour nous que, à l'issue du processus, nous restions largement dans les limites fixées par Thunberry. Et pour nous, cela correspond à 15% tout compris.
Une négociation qui continue sous la pression américaine. L'adoption définitive de cet accord par le Parlement européen est prévue pour le 16 juin prochain.
En France, la campagne présidentielle a déjà commencé avec un passage devant les jeunes agriculteurs.
Les JA qui tenaient leur congrès hier à Bourg-en-Bresse pour élire d'ailleurs le cultivateur isérois Jocelyn Dubost à leur tête et donc pour auditionner plusieurs candidats à la présidentielle ou leur porte-parole. Alors globalement, le constat est partagé sur la crise qui touche le secteur, mais les solutions divergent, Hélène Cornet.
Édouard Philippe veut réviser la Constitution. Le candidat Horizon à la présidentielle souhaite que les besoins de l'agriculture soient mieux pris en compte dans la charte de l'environnement. Une charte qui sanctuarise le principe de précaution, parfois à l'extrême.
Mais si nous continuons à imposer aux agriculteurs français des normes qui ne s'imposent pas chez leurs concurrents immédiats, alors que nous achetons les produits de ces concurrents immédiats, nous les condamnons à une baisse de compétitivité qui les condamne à terme dans leur activité.
Lutter contre la concurrence déloyale, faciliter l'accès à l'eau ou simplifier les projets d'élevage, autant de mesures contenues dans la loi d'urgence agricole adoptée cette semaine à l'Assemblée nationale. Une victoire pour le Rassemblement national, même si le texte manque d'ambition, selon Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme.
Cette loi ne répond pas à l'essentiel de vos problématiques. Il n'y a toujours pas, 10 ans après 3 lois Egalim, de solutions proposées par le gouvernement pour avoir des prix rémunérateurs. Certains nombres de filières sont revenus sous l'eau.
Lors du congrès, les représentantes des partis de l'aile gauche ont été plus fraîchement accueillies. La candidate écologiste Marine Tondelier a mis en avant ses origines agricoles avant de se défendre face aux accusations de stigmatisation et de culpabilisation des agriculteurs.
Dans l'actualité des entreprises, la colère des salariés de Decathlon.
L'intersyndicale appelle à la grève demain partout en France. Elle dénonce l'absence de réponse de la direction face à ses demandes de hausse de salaire. Elle regrette aussi le refus de partager les fruits du succès de l'enseigne, Pauline Tadevin.
La CFDT s'attend à ce que la mobilisation de samedi soit particulièrement suivie. Elle décrit un engouement sans précédent de tous les syndicats de Décathlon. Elle reproche à la direction de communiquer sur des performances exceptionnelles et de ne pas les répercuter sur les conditions salariales. En toile de fond aussi, toujours, les dividendes remontés à l'association familiale Mullier, actionnaire principale. Il devrait encore s'allouer a priori entre 400 et 600 millions d'euros de dividendes courant juin. Et nous, on n'a rien, regrette le délégué CFDT. Fin 2024, déjà, le versement d'un milliard d'euros aux actionnaires avait déclenché la colère des salariés de Décathlon en pleine période de NAO. Le président de l'époque, aujourd'hui d'ailleurs chez Auchan, avait expliqué que cet argent n'était pas destiné à enrichir les actionnaires, mais à aider d'autres entreprises de la galaxie Mullier. Auchan, déjà, était en grande difficulté. Un syndicaliste regrettait alors que Décathlon soit la vache à lait du groupe. Cette rancœur est toujours bien présente.
Et puis, peut-être une vente à 4 milliards d'euros pour EDF, le groupe français qui est en discussion avancée pour la cession de ses activités renouvelables aux États-Unis. Discussion avec l'américain LS Power, selon Bloomberg. Alors, EDF ne commente pas, mais un accord pourrait être annoncé dans les tout prochains jours.
8h36, l'actualité internationale avec Annalisa Capellini et les médias internationaux qui reviennent beaucoup ce matin sur la guerre en Ukraine et notamment sur la lettre envoyée par Volodymyr Zelensky à Poutine pour lui proposer des pourparlers directs dans un pays neutre.
Oui, c'est le Kiev Post qui dit que Volodymyr Zelensky écrit très rarement à Vladimir Poutine et donc quand il le fait, évidemment, c'est pour envoyer un message en particulier très politique. Et là, selon le journal ukrainien, il faut marteler deux messages. C'est que cette guerre, c'est le choix, l'obsession et l'échec d'un seul homme et pas d'un peuple. D'un seul homme, Vladimir Poutine, évidemment. Et puis, Zelensky voulait dire à Poutine de ne pas avoir peur de sortir de la guerre. C'est une phrase, effectivement, dans la lettre. Et il s'agit là d'un renversement psychologique ultime, selon le Kiev Post, puisque Zelensky présente Poutine comme un homme vieillissant, prisonnier de sa propre erreur historique. La BBC, en revanche, présente une autre analyse dans un article très intéressant qui se demande si le discours public sur la guerre a changé en Russie, si le discours public peut changer déjà, est-ce qu'il peut y avoir un débat ? Réponse, oui, parce que même en Russie, on observe des signes d'un débat public croissant sur l'opportunité ou pas de mettre fin à la guerre. Des revues proches du pouvoir commencent à publier des articles polémiques, avec beaucoup de guillemets, mais polémiques, qui visent à insinuer que l'objectif d'éliminer le régime ukrainien est fondamentalement irréalisable. Évidemment, tout ça aurait été impensable il y a seulement quelques mois.
Dans le FT, on parle d'économie britannique.
Oui, et surtout de politique en réalité, parce que ça y est, Andy Burnham, le maire du Grand Manchester, a confirmé qu'il va essayer de voler la place de Keir Starmer, le Premier ministre britannique. En fait, il attend juste une date, c'est celle du 18 juin. C'est une élection partielle qui lui permettra ou pas de revenir au Parlement. Attention, en revanche, les sources citées par le FT le rappellent, Keir Starmer n'a aucune intention de lâcher son poste pour l'instant. Le Wall Street Journal se concentre sur la politique américaine et sur les deux grands démocrates de Californie, Gavin Newsom, le gouverneur, et Kamala Harris, l'ancienne vice-présidente. Ce sont comme deux chats qui tournent en rond, selon le Wall Street Journal, puisque une confrontation entre les deux en 2028 se profile. Donc, ils prétendent être proches pour l'instant. En réalité, il faut plutôt s'attendre à une lutte sans merci au moment où ils vont potentiellement décider de se présenter pour la présidentielle.
Merci, Annalisa, à la bourse. Etienne Braque, couverture dans 20 minutes, qu'est-ce qu'on attend ?
Sans direction claire, après une hausse d'un peu plus d'1%, c'est très timide en pré-ouverture. Le CAC 40 qui est toujours sur le fil des 8200 points. À suivre à l'ouverture, Airbus qui annonce une nette accélération de ses livraisons au mois de mai, avec plus de 80 avions livrés le mois dernier, contre à peine 67 au mois d'avril. Ce titre Airbus qui était à 177 euros hier soir à la clôture, une hausse de plus de 4%. C'est un petit peu le retour de la vieille économie hier en bourse. Le Dow Jones a gagné plus de 1,7% quand le S&P était à plus 0,4 et le CAC 40 a gagné plus de 5% avec les Dassault Systèmes, les Capgemini, les Airbus, autant de valeurs qui ne faisaient pas grand-chose depuis le début de l'année et qui se sont bien réveillées. L'argent afflue toujours sur les projets d'intelligence artificielle. Hier matin, je vous disais, Schneider Electric lève 800 millions. Finalement, ils ont levé 850 millions parce qu'en fait, la demande était très présente sur une émission obligataire, des émissions avec des actions convertibles. Le tout à une semaine, hein, puisque nous sommes à J-7.
Et oui, avant l'IPO géante.
Voilà, de Space Six qui va lever 75 milliards de dollars. Alors, on est vraiment dans une autre dimension. En tout cas, cette nuit, S&P Global, qui gère notamment l'indice S&P 500, a dit pas question hein, de faire entrer SpaceX dans l'indice S&P 500. Ils sont pas rentables. Et puis surtout, il y a assez peu de flottants, donc c'est très problématique.
Merci Étienne. Dans un instant, ça va être votre première confrontation avec Marc Fiorentino. Vous êtes prêts ? Vous avez pris des gants ?
Oui.
Vous avez peur ?
Non.
Non, mais je serai à vos côtés, vous inquiétez pas, je vous défendrai.
Ouf.
Il arrive, Marc Fiorentino, ça fait peur, dans un instant.
Good Morning Market, le club de la bourse.
8h42 sur BFM Business, Marc Fiorentino est arrivé. Ça va Marc ?
Oui, franchement, quand je viens ici, je suis toujours en pleine forme.
Ah, Étienne Braque est également avec nous. Vous allez être gentil avec Étienne qui a un peu peur. On va également parler des IPO géants, Tonson, MySpace, donc qui va entrer en bourse la semaine prochaine. On va parler fiscalité en France et je voudrais vous faire écouter, parce que j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, l'audition hier de Pierre-Édouard Sterrin qui était au Sénat et qui a parlé de son exil fiscal. Il se qualifie lui-même d'exilé fiscal. Écoutez ce qu'il raconte sur l'argent qu'il conserve et comment il réinvestit.
Je suis ce qu'on appelle encore aujourd'hui un exilé fiscal. Sur ce sujet-là, peut-être juste en quelques mots, depuis 15 ans, depuis bientôt 15 ans, j'économise entre 100 000 et 200 000 euros par an d'impôts en vivant en Belgique plutôt qu'en vivant en France. Donc j'ai économisé de 3 millions d'euros depuis que je suis parti en Belgique, en sachant que j'ai redistribué, ça a été évoqué par mes associés il y a de cela quelques jours, 150 millions d'euros en France à des projets d'intérêt général ou à des projets métapolitiques.
Quand vous entendez Pierre-Édouard Sterrin faire le calcul, alors il est vraiment transparent sur ce qu'il fait, qu'est-ce que ça vous inspire, Marc ? En fait, il préfère organiser son argent comme il veut et ne pas faire en sorte que ça soit dans des impôts où il ne sait pas où ça va.
Ouais, bah, je crois que c'est un choix personnel que je respecte, que par exemple que je n'ai pas fait, que j'ai décidé de ne pas faire. Mais je pense que on est, moi je pense que ça va au-delà du problème fiscal. Très sincèrement, quand je réfléchis à partir ou rester, ou quand autour de moi les entrepreneurs cherchent à partir ou rester, ce qui vient en premier, c'est pas forcément l'aspect fiscal.
C'est
l'environnement, c'est-à-dire c'est plusieurs choses. D'abord le sentiment d'avoir un déclassement qui est de plus en plus fort, déclassement qu'on voit dans les chiffres économiques, macroéconomiques. C'est de la macro là, on n'est même pas dans le ressenti, on est dans le PIB par habitant, c'est le deuxième élément, c'est la sensation de finalement de pédaler un peu pour rien. C'est-à-dire que très clairement, quand on regarde une fiche de paye d'un de nos employés ou un de nos salariés et qu'on voit l'écart entre ce que ça coûte à l'entreprise, tout ça, ça fait un peu café du commerce, mais c'est quand même une réalité quotidienne. Tous les mois, on est toujours surpris quand on regarde les fiches de paye de nos salariés de voir l'écart délirant, deux fois et demi ce que coûte l'entreprise par rapport à ce que touche. Donc ça, c'est un deuxième élément. Et puis le troisième élément, ce sentiment terrible pour à la fois les entrepreneurs et puis tous les gens qui sont dans une certaine forme de, j'ai pas envie de dire de capitalisme, mais d'économie libérale, d'être dans un pays dans lequel on est de plus en plus opposé à cette économie libérale, avec l'émergence de nouvelles générations, dont les Gen Z, dont on dit aux États-Unis qu'elles sont de plus en plus socialistes. Et c'est un peu le cas aussi en France. Et donc, se retrouve dans un environnement où on se dit finalement... Et c'est très symptomatique, à chaque fois que je voyage à l'étranger et que je parle avec des gens qui entreprennent à l'étranger, je m'aperçois qu'en fait, on parle pas du tout de la même chose. C'est-à-dire, eux, ils sont 100% focalisés business. C'est-à-dire qu'en fait, ils comprennent même pas notre discussion. Nous, on passe la moitié de notre temps à dire qu'est-ce qui va se passer en 2027. Et depuis la dissolution, on est coincé. Et il y a la problématique. Là, je regarde le truc. Je vous prends un exemple ponctuel. Les discussions qu'il y a sur le cumul emploi-retraite. On a un truc qui fonctionne super bien. Et puis, on commence à dire, finalement, on va limiter le plafond de la retraite touchée pour pas permettre... C'est quoi ? Alors qu'on a un problème de travail des seniors. Donc, vous voyez, on a ce sentiment qu'on passe la moitié de notre journée, quand on est entrepreneur ici, à s'occuper de choses dont on ne devrait pas s'occuper. Et donc, moi, je pense que l'aspect...
C'est pas pour 150 000 euros qu'on part, c'est parce que c'est déprimant.
Que l'argument est petit, quoi. C'est-à-dire que c'est pas le sujet, quoi. Alors après, effectivement, si on pèse 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, je pense qu'il y a des moyens d'optimisation fiscale qui sont très importants. Mais je pense pas que ce soit ça, le sujet. Le sujet n'est pas un sujet d'optimisation fiscale, ni d'exil fiscal, ni d'évasion fiscale. Le sujet, c'est un sujet d'évasion sociale et d'exil social et d'exil sociétal.
Alors, je ne vais pas vous remonter le moral en vous disant qu'il n'y a pas beaucoup d'IPO en Europe. Vous êtes êtes au courant, notamment en France. Par contre, aux États-Unis, on s'attend quand même à SpaceX. Non, mais je fais ce que je peux, moi, pour vous soutenir. Mais là, c'est pas en vous parlant de SpaceX, c'est des méga IPO que je vais vous remonter le moral. Étienne, les chiffres sont pharaoniques.
Oui, juste délirant. Hein. C'est dans 7 jours, c'est vendredi prochain, la première séance de SpaceX. Valorisation attendue, 1 800 milliards. Pour rappel, cette entreprise ne gagne pas d'argent. Elle a perdu quasiment 5 milliards en 2025, encore 4 milliards en début d'année. Un chiffre d'affaires, ça va se payer 94 fois. Et au milieu de tout cela, eh bien, il y a une euphorie qui est juste énorme. Tous les grands banquiers de Wall Street sont en train de faire des roadshows pour essayer de convaincre les investisseurs. Et puis surtout, vous aurez les particuliers qui seront au rendez-vous, hein, puisque Elon Musk a bien compris que les investisseurs particuliers ne regardaient pas les niveaux de valorisation. Et il va leur accorder un tiers des actions disponibles pour cette IPO.
Quand il y tient, Elon Musk, à ce que ça soit ouvert au retail, Marc.
Ouais, il y tient, ce que dit Étienne est très juste, c'est-à-dire il y tient parce qu'il sait très bien que pour faire le buzz et pour qu'il y ait une bulle autour de SpaceX et pour qu'il y ait un engouement autour de SpaceX, il faut qu'il y ait des particuliers. Alors on va savoir dans quelques mois si les particuliers seront les dindons d'une farce intergalactique ou si au contraire ils auront touché leur billet de loto. C'est la première fois, hein, comme tu le disais, c'est la première fois qu'on a un pourcentage qui est aussi important, plus de 25% qui sera dédié au public. Généralement la norme, il faut savoir que c'est 5% et puis on peut monter jusqu'à 10%. Donc là on est très clairement et on voit déjà, d'ailleurs c'est très intéressant, le Financial Times racontait ce matin que déjà en pré-IPO, c'est la première fois, hein, parce que c'est pas simplement l'IPO, il faut savoir que les actions de SpaceX, les actions d'Anthropix, les actions d'OpenAI se traitent maintenant beaucoup sur des plateformes en pré-IPO, c'est-à-dire qu'il y a des salariés qui ont des actions gratuites, qui les revendent, enfin il y a un marché pré-introduction en bourse, et il paraît que c'est la folie complète et qu'on est au-dessus de valorisation de 1 800 milliards. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui achètent sur des plateformes des titres de SpaceX en pensant que ça va probablement, ou peut-être, hein, c'est possible, hein, côté 2300,
a priori, quand ça va arriver, ça va, dans les premiers jours, du coup, ça va booster. Ça ne veut pas dire que c'est les performances futures.
Très,
mais...
très difficile à déterminer. Les chiffres sont, Étienne le disait, les chiffres sont dingues. Et moi, ce qui me frappe aussi, hein, toujours pour revenir un peu sur le même sujet qu'on a abordé tout à l'heure, c'est vrai que vous n'avez pas des sujets qui me remontent le moral avant.
Je suis désolée.
Mais c'est vraiment, ça fait 40 ans ou 45 ans que je suis sur les marchés, j'ai travaillé beaucoup dans des entreprises américaines et des banques d'affaires américaines, et franchement, j'ai jamais eu le sentiment d'être aujourd'hui sur une autre planète. C'est-à-dire qu'avant, j'avais l'impression que, bon, et que Paris était une place financière, l'Europe, on était, il y avait Londres, il y avait New York, on était un peu décalé, ils étaient devant nous, ils étaient très forts. Mais là, j'ai l'impression que c'est même plus qu'on est dans la course. C'est-à-dire, et c'est même pas pour faire du bashing européen. J'ai l'impression qu'on n'est plus sur la même planète parce que l'unité, tu le rappelais tout à l'heure, l'unité, c'est devenu le 1 000 milliards de dollars. C'est-à-dire, vous apercevez que toute la journée, on parle de 1 000 milliards de dollars, 1 000 milliards de dollars. Et puis quand Alphabet va lever de l'argent, c'est 85 milliards de dollars. L'autre va lever 75 milliards. La valorisation, c'est 2000 milliards. Anthropix, c'est 1000 milliards. C'est-à-dire que l'unité de compte, c'est 1000 milliards. 1000 milliards de dollars, c'est voilà, le montant des investissements dans l'IA sur une année, enfin tout ça. Et puis à côté, j'ai l'impression que nous, et quand je regarde effectivement les IPO, je l'ai dit, on a eu 2 IPO à Paris depuis le début de l'année, c'est des micro-caps, c'est très bien. Hein, mais bon, il faut quand même faire quelque chose, quoi. Il faut bouger, alors les introductions...
Mais qu'est-ce qu'il faut faire?
Je pense franchement qu'il faut que les institutions, d'abord, il faut que Ronex bouge, et je pense que
mais
Ronex
il faut plus d'IPO, c'est-à-dire que c'est plus sain d'avoir des entreprises qui ouvrent leur capital au public.
Mais évidemment, mais c'est-à-dire, je le répète tout le temps, regardez les 10 premières fortunes mondiales, c'est 10 entrepreneurs de boîtes cotées. Enfin, c'est quand même une évidence. C'est-à-dire, j'ai envie de dire, même si c'est pour des raisons purement vénales, allez vous introduire en bourse. Enfin, ça fait partie du jeu. C'est très bien le private equity. C'est pas une guerre du private equity, mais pour le private equity, la bourse aussi, c'est une sortie. Aujourd'hui, le private equity est coincé, ils n'arrivent pas à sortir leurs dossiers parce qu'ils ont acheté trop cher des dossiers il y a 2 ou 3 ans qui ne se portent pas très bien, et donc ils sont complètement bloqués. Mais à aucun moment, ils envisagent de se dire, parce qu'ils ont, démoli la bourse pendant des années, ils ont à aucun moment, ils se disent, tiens, c'est une sortie.
Je pense avec Étienne, c'est trop compliqué, manque de transparence, on a ça, Étienne, sur le plateau.
Mais c'est complètement faux, et je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de responsabilités. Il y a beaucoup de responsabilités des autorités de place. Il y a, je pense, et la BPI est en train de bouger sur sa position, bah, la BPI a favorisé beaucoup le private equity, beaucoup le capital risque, pas trop la bourse. C'est en train de changer. Ils ont créé un fonds dédié aux petites capitalisations. Je salue cette initiative parce que c'est une très belle initiative. La Caisse des dépôts a créé un fonds qui investit dans des fonds small cap, un fonds de 500 millions. Bravo, c'est une initiative.
Et c'est pas un problème de fonds,
Je pense que, vous savez, par exemple, il y a 10 ans, le capital risque en France, ça n'existait pas. Ouais. Si la BPI n'avait pas arrosé largement des fonds de private equity et de capital risque, il n'y aurait jamais eu capital, on n'aurait pas eu la French Tech. Donc ça veut dire qu'on peut changer les mentalités. Maintenant, il faut simplement dire aux gens et monter des opérations de place, ouvrir les opérations au public. Aujourd'hui, Étienne le sait, on a des millions d'actionnaires individuels qui sont arrivés à la bourse après l'introduction de la Française des Jeux, après le Covid.
Bah, il reste une minute juste. Étienne, il y a peu d'opérations qui sont ouvertes au public aujourd'hui sur Next.
Bah, d'autant plus que le seuil a été abaissé pour les particuliers, Marc. Ça a quand même été un échec grandissant ces derniers mois. C'est-à-dire que l'AMF a revu la part des blocs pour les particuliers lors des introductions en bourse.
Oui, mais aujourd'hui, je pense qu'on a la possibilité, et j'espère que ça va bouger dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent, d'ouvrir des opérations au public, et je pense que ça créera un engouement.
Dans un instant, l'ouverture des marchés financiers, ce soir, 20h, c'est votre argent, Marc ?
Absolument. Oui, vous allez me demander le nombre des
invités. Oui, j'adore ce jeu. C'est mon jeu du vendredi.
Parce que je déteste passer ce test-là.
Ah là là.
Et j'ai même une nouvelle invitée, mais je ne vous dirai pas, une invitée surprise.
Ah, une femme.
Ouais.
Merveilleux. Bah écoutez, si vous voulez avoir une femme, non, c'est votre argent. Je sais que vous avez des femmes. Voyons, je suis de votre côté. C'est votre argent ce soir, 20h, en replay.
Merci, vous m'avez déprimé pour le week-end, en tout cas.
Podcast. Il y a une cellule psychologique qui est ouverte à la sortie du studio. Celui-là, on pourra prendre un petit café. Dans un instant, l'ouverture. Je vous dis à lundi. Bon week-end sur RMC Live.
BFM Business présente Good Morning Market. Etienne Brac.
C'est parti pour Good Morning Market, deuxième partie jusqu'à 9h30. Et puis ensuite, vous retrouverez les experts avec Raphaël Lejean. Le CAC 40 va ouvrir dans une poignée de secondes. Plus 0,2% en préouverture après un gain de 1% hier soir à la clôture. C'est un petit peu le retour de la vieille économie en bourse. Plus 1,7 hier soir pour l'indice Dow Jones. Quand le S&P 500 était en hausse de 0,4%. Séance décisive aujourd'hui pour le S&P 500 puisque pour l'instant, l'indice est stable sur l'ensemble de la semaine. Et s'il clôture dans le vert, ça serait alors sa 10e semaine consécutive dans le vert, ce qui n'est pas arrivé depuis 1985. Et pour cause, le secteur technologique mène encore la danse. Nous en parlerons dans une dizaine de minutes avec François Monnier, le directeur de la rédaction d'Investir, qui nous dira comment aujourd'hui arbitrer son portefeuille, sachant que l'indice des semi-conducteurs est en hausse de 90% depuis le 1er janvier. Thomas Guérin sera également avec nous de AG2R, la mondiale d'actifs, pour faire un focus sur Iberdrola et puis également sur un distributeur qui est assez peu connu, Geronimo Martins, qui est présent que ce soit au Portugal mais aussi en Pologne. Et puis en dernière partie d'émission, Charles Janus de la Belle Épargne nous accompagnera afin de dresser le profil de la séance au niveau technique, sachant qu'on est encore et toujours sur ce fameux niveau des 8200 points. En attendant, il est 9h et c'est toute l'information économique du jour avec Léo Dumas.
Good Morning Market, le journal.
Et à la une, alerte sur le déficit, le risque de dérapage est maximal en 2027 alors que les discussions ne font que démarrer à Bercy. Info de BFM Business ce matin, Raphaël Legendre. On parle déjà d'un scénario au-delà des 6%.
Oui Léo, effectivement c'est le chiffre qui fait peur à Bercy en ce moment. La Commission européenne avait déjà alerté cette semaine sur un risque de dérapage du déficit à 5,7% l'année prochaine si rien n'était fait. Eh bien en réalité, le chiffre serait bien pire, il serait jusqu'à 6,2% selon les chiffres du Trésor. En cause, l'explosion des dépenses sociales, évidemment des dépenses qui sont indexées sur l'inflation et l'inflation grimpe. Alors les retraites avec elles aussi, les prestations familiales, les minima sociaux, c'est bien simple, tout flambe. Il faut dire qu'un point de hausse de l'inflation, c'est une bonne dizaine de milliards d'euros de dépenses supplémentaires pour l'État. Ajoutez à cela la charge de la dette qui explose, les hausses de dépenses militaires et des collectivités locales. Et vous avez un cocktail explosif qui fait que pour l'heure, il faudra trouver à minima une trentaine de milliards d'euros uniquement pour stabiliser le déficit autour des 5% l'année prochaine. Un déficit qui, sans mesure de correction, pourrait d'ores et déjà d'ailleurs déraper cette année peut-être à 5,2%. Ce matin, le ministre des Comptes publics, David Amiel, sur Sud Radio, a promis que le déficit serait bien contenu à 5,1%.
Merci Raphaël Legendre. Et en attendant, c'est le déficit commercial qui se réduit. Il revient à 5,6 milliards d'euros en avril, 800 millions de moins qu'en mars, grâce à des exportations en hausse, selon l'INSEE, qui annonce par ailleurs ce matin une hausse de 0,1% en avril de la production industrielle. Peut-être une vente à 4 milliards d'euros pour EDF. Le groupe français est en discussion avancée pour céder ses activités renouvelables aux États-Unis à l'américain LS Power, selon Bloomberg. Alors EDF ne commente pas, mais un accord pourrait être annoncé dans les tout prochains jours. Aux États-Unis également, Donald Trump annonce 700 millions de dollars pour le charbon, pour soutenir les mines en activité, pour construire deux nouvelles centrales. Le président américain qui dit qu'il cherche à maintenir très bas les tarifs de l'électricité dans un contexte de forte demande avec l'essor des data centers. Et puis dans l'IA anthropique, la maison mère de l'IA Claude suggère de faire une pause. L'entreprise américaine avance en fait l'idée de se mettre d'accord à l'échelle mondiale pour ralentir ou pour suspendre le développement des intelligences artificielles le temps que l'humanité s'adapte et face au risque de perte de contrôle.
Merci beaucoup Léo Dumas. Le CAC 40 gagne 0,2%. Le détail dans un instant, juste avant un petit coup d'œil sur la... programme, j'allais dire la séance, mais non, c'est plutôt le programme des experts. 9h30, 10h30.
Dans la formidable programmation des experts ce matin, à ne pas rater. On va parler de votre argent ce matin dans les experts, avec plusieurs sujets. On va commencer avec la transparence salariale. Vous savez que la France avait jusqu'à dimanche pour transposer la directive européenne sur la transparence salariale. Le ministre du Travail vient d'annoncer ce matin que le projet de loi sera envoyé au Conseil d'État d'ici ce dimanche, mais on n'aura pas le texte avant la fin de l'année. On va voir si cette transparence salariale n'est pas la fausse bonne idée au sein des entreprises. On va voir aussi comment rapprocher le brut du net. Évidemment, le pouvoir d'achat est la préoccupation numéro un des Français. Et selon un sondage ELAB pour les Échos, on a quand même 8 Français sur 10 qui ont le sentiment que les salaires en France ont augmenté moins vite que les prix. On va voir comment on peut renforcer ce pouvoir d'achat et comment rapprocher le brut du net. Et puis, on va voir aussi si notre modèle social est hors de contrôle. On vous disait dans le journal, le déficit pourrait déraper à 6,2% l'année prochaine. C'est le fait principalement des dépenses sociales indexées sur l'inflation. On en débattra ensemble. Et puis enfin, on va essayer de comprendre pourquoi, c'est peut-être la seule bonne nouvelle ces derniers temps, pourquoi l'INSEE a revu drastiquement à la hausse la croissance en 2023 et 2024. Voilà pour le programme des experts. Rendez-vous à 9h30.
En attendant, il est 9h03 et le CAC 40 a donc ouvert dans le vert. Plus 0,1%, c'est timide. 8255 points pour le CAC 40 dans les premières minutes de cotation. Kering, Pernod Ricard et Saint-Gobain sont les trois plus fortes hausses. Trois titres qui gagnent un peu plus d'1%. À suivre ce matin, Airbus qui grappille 0,4% au-delà des 178 euros avec le groupe qui annonce ce matin avoir livré 81 appareils le mois dernier, c'est-à-dire un net rebond par rapport à l'an dernier et surtout une belle accélération par rapport aux 67 du mois d'avril. Sur le même mois, vous avez eu un peu plus de 400 appareils qui ont rejoint le carnet de commandes. Le titre Airbus est donc en hausse timide, de 0,4%. ST Microélectronique, c'est la plus forte baisse ce matin à l'ouverture. Dans le sillage, une séance qui a été difficile ce matin du côté de Séoul, puisque l'indice Kospi a perdu plus de 5%. Nette prise de bénéfices, après quand même un gain de plus de 90% depuis le début de l'année, avec notamment Samsung et également SK Hynix qui ont un petit peu plombé l'ambiance. Hier soir, c'est Broadcom qui a perdu plus de 12% après la publication de ses résultats. Souvenez-vous, le groupe avait publié mercredi soir et n'avait pas revu à la hausse ses prévisions, ce qui a été sanctionné par le marché. Soitec également est l'une des plus fortes baisses ce matin à l'ouverture. Le titre abandonne un peu plus de 5% à 149 euros. Dans un instant, nous parlerons d'Iberdrola. C'est l'une des plus grandes capitalisations en Europe avec un peu plus de 100 milliards, 130 milliards même exactement. Focus avec les équipes de AG2R, la gestion d'actifs. Et puis ensuite, avec François Monnier, nous parlerons de cette semaine folle, une nouvelle fois sur les marchés, avec un S&P 500 qui est en passe de signer une 10e semaine consécutive dans le vert. On voit ça dans un instant, à tout de suite.
BFM Business présente Good Morning Market. Étienne Braque.
9h08 et comme chaque jour dans cette deuxième partie d'émission, nous parlons de valeurs, des idées de valeurs pour garnir vos portefeuilles. en portefeuille. Deuxième partie d'émission avec ce matin Thomas Guérin, gérant action chez AG2R, la mondiale gestion d'actifs. Bonjour Thomas Guérin, merci de nous accompagner ce matin à distance pour mettre en avant des convictions de vos portefeuilles avec ce matin un focus sur Iberdrola et puis également dans un instant de Geronimo Martins, un groupe qui est spécialisé dans le secteur de la distribution. Commençons peut-être par Iberdrola, un champion européen de l'énergie qui frôle ses plus hauts historiques encore ce matin.
Oui, bonjour, tout à fait. Au sein de la société de gestion, nous avons des comités, un comité interne qui définit des orientations tactiques concernant les secteurs et les thématiques. Et ceci a pour but de privilégier les secteurs ou les thématiques qui offrent un rendement risque plus favorable et éviter ceux le plus à risque. Et au sein de ce comité, évidemment, tout ce qui touche à l'IA est bien sûr présent. Surtout dans le fonds US, mais là on va parler de fonds des valeurs européennes. Et pour les fonds européens, il y a d'autres moyens que de jouer des semi-conducteurs, même si encore une fois nous sommes exposés, mais ça reste quand même cyclique et à risque. Et pour jouer cette thématique, mais pas que, effectivement nous avons choisi de nous exposer au secteur des utilities, donc là en bon français service aux entreprises, mais sur la partie électrique. Et au sein de ce secteur des utilities, on a trouvé trois thèmes qui sont totalement clés en ce moment. C'est la souveraineté énergétique européenne, qui est vitale. On le voit bien dans cette période de blocus dans le détroit d'Ormuz et auparavant de non-approvisionnement de gaz et de pétrole, surtout de pétrole russe, où on voit bien la difficulté des pays, surtout comme l'Allemagne ou comme l'Italie, l'importance d'être indépendant. Le deuxième point clé pour ce secteur qui nous a fait devenir positif, c'est le data center. Décidément, c'est jamais bien loin, hein. Mais forcément, l'intelligence artificielle, on le sait, est très très énergivore. L'augmentation des capacités est très très importante et il faut approvisionner en électricité tout ceci. Et dans le plan des 650 milliards des hyperscalers, il y a une partie sur l'approvisionnement électrique. Pour preuve, on passe de 0,05 de croissance de demande électrique dans le monde à 4% dans les années à venir. Et enfin, c'est quand même, n'oublions pas, c'est la transition énergétique. Il faut que ça soit vert, il faut que ça soit green. Pensons aux générations futures. Donc, le charbon, c'est une solution, mais à court terme, il faut quand même penser à l'avenir. Et certains groupes européens ont largement fait ce pas en proposant une électricité verte. Donc effectivement, nous avons surpondéré le secteur. Et Iberdrola, qui est la plus grosse valeur, vous l'avez dit, hein, 133 milliards de capitalisation boursière, c'est la plus grosse valeur utilities d'Europe, la deuxième du monde. On aurait pu parler de Enel NG, hein, qui sont également qui ont des profils extrêmement intéressants. Mais Iberdrola reste quand même la darling, ce qu'on appelle la darling en bourse, la mieux gérée, forte croissance des bénéfices par action, entre 8 et 10 par an, et surtout une exposition pays qui nous intéresse.
Aujourd'hui, c'est un titre qui se paye quasiment 19 fois les profits attendus l'année prochaine. Est-ce que toutes les bonnes nouvelles sont pas déjà un petit peu dans les cours? On a un titre qui a pris 22% là sur les 12 derniers mois.
Ouais. Alors c'est extrêmement intéressant ce que vous dites. Effectivement, le cours de bourse est au plus haut. Ça reste raisonnable quand même. Et la valorisation est également sur une borne haute. On n'est pas sur des niveaux de ce qui sont sur ceux des semi-conducteurs, mais on est effectivement au plus haut. Mais pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, la société a largement changé son business model et est partie sur tout ce qui touche au régulé. Ce qu'on appelle le régulé, il y a plusieurs types, mais c'est surtout tout ce qui touche au réseau électrique. Car une utilities, demain, vous pouvez faire toujours une éolienne dans votre jardin, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est être capable de produire multi-sources d'approvisionnement électrique, car un jour il y aura du soleil, un jour du vent, un jour, etc., etc. Donc en fait, la clé, c'est d'avoir une taille critique sur des multiples approvisionnements électriques et pouvoir fournir jusqu'au client final l'électricité de qualité. C'est là qu'il y a la valeur ajoutée. Encore une fois, NGNL le font aussi, hein, mais eux, ils ont encore une fois une position au UK, US, Espagne, et comme par hasard, c'est là où les data centers ont le plus gros plan d'investissement. Donc ça reste effectivement une société qui est sur des niveaux élevés, mais sur lequel il y a une visibilité qui vaut quelque chose et cette visibilité de croissance des BPA et du discours d'affaires vaut quelque chose. Pour vous détendre, en fait, cette semaine, on les a rencontrés, parce que en ce moment, c'est la période des salons faits par des bureaux d'analyse et où les sociétés viennent parler après leurs résultats. Et on les a rencontrés et ils ont pris en exemple au Brésil. Alors, c'est une petite, c'est 10% hein, de leur activité, le Brésil. Mais le gouvernement brésilien leur a demandé d'investir, d'augmenter les investissements. Et donc ça, on pourrait dire que c'est une mauvaise nouvelle, mais en réalité, comme c'est du régulé, en face, il y aura une rémunération contractuelle. Donc on voit bien que c'est une croissance, mais qui génère, finalement, c'est une croissance saine qui génère des bénéfices à venir.
Voilà donc pour Iberdrola. Il nous reste un peu moins de 3 minutes. Thomas Guérin, vous êtes depuis AG2R La Mondiale pour nous parler un petit peu de vos portefeuilles. On va faire un focus sur Geronimo Martins. Alors c'est vrai que c'est une valeur qu'on aborde assez peu, voire même jamais sur cette antenne. Et pourtant, c'est plus de 10 milliards de capitalisation boursière. C'est un acteur qui est spécialisé dans le secteur de la distribution.
Ouais, exactement. Alors c'est pas un secteur sur lequel le comité était positionné favorablement jusqu'à des événements malheureux qui ont créé le détroit d'Hormuz et qui ont créé, on le sait, la hausse du baril du pétrole, mais également des engrais. Vous en avez très largement parlé et c'est très intéressant sur votre antenne. Et tout ceci va être inflationniste. Et c'est un secteur, la distribution alimentaire, qui bénéficie de l'inflation, d'une légère inflation, car c'est une structure à coût fixe avec des salariés, des loyers. Et leur capacité finalement à produire de la valeur, c'est lorsqu'il y a une légère inflation des produits. Là, en ce moment, on est dans une déflation post début de guerre en Ukraine et l'inflation devrait revenir au S2. Donc toujours c'est pas du tout la principale position évidemment de la conviction de la société, mais dans une bonne diversification et pour capter dans les enjeux qui sont en train de se passer. L'inflation qui revient peut être catalyseur à un re-rating. Et donc effectivement, Geronimo Martins a été rentré. C'est pas la plus belle. La plus belle du secteur, c'est Ahold. Une valeur aussi comme Carrefour aurait pu être énoncée. Il n'y a pas de souci. Mais pourquoi Geronimo? Parce que simplement, c'est le leader. Leur principale activité, 70% de leur activité est en Pologne. Et la Pologne, vous le savez, l'un des pays les plus dynamiques en Europe, 3% de croissance, donc on est largement au-dessus des pays France-Allemagne. Et donc ce retour à l'inflation serait le catalyseur pour un re-rating du secteur. Donc on est positionné sur ce groupe familial, hein, 56% du capital appartient à la famille. Une marque Biedronka qui est un discounter qui a 25% de part de marché, tout est ouvert sur la situation jusqu'à présent. Le côté déflationniste, je vous disais, nous empêchait finalement d'être vraiment intéressés, mais là les choses vont évoluer. Donc effectivement, nous remettons un petit peu de position sur la distribution alimentaire, mais c'est encore une fois dans une bonne diversification. Le titre se paye 14 fois 2027. On a un rendement à 3,5, une bonne croissance à venir. Voilà pour les idées.
Pour ce titre qui est notamment du côté de Lisbonne, au Portugal, plus 0,4% ce matin, 17,78€ pour Geronimo Martins. Merci beaucoup Thomas Guérin de nous avoir accompagné depuis AG2R, la gestion mondiale d'actifs, afin de faire un focus sur Iberdrola et donc sur Geronimo Martins. 9h16, François Monnier vient de nous rejoindre en plateau. Le directeur de la rédaction d'Investir. Bonjour François.
Bonjour Étienne.
Merci d'être avec nous ce matin. Bon, c'est une séance importante pour le S&P. Si aujourd'hui, à 22h, c'est du vert, 10e semaine consécutive dans le vert. C'est jamais arrivé. Enfin bon, faut revenir à 1985 de mémoire pour voir 10 semaines consécutives dans le vert pour le S&P 500. Avec la tech hein, qui tire encore et toujours les indices. Alors hier, c'était marrant. Le S&P 500 a gagné 1,7, plus 0,4 seulement pour le S&P. Ce matin, c'était un petit peu difficile également du côté de la bourse de Séoul. Comment aujourd'hui vous accompagnez vos lecteurs chez Investir face à ce rouleau compresseur qu'est la tech et plus particulièrement le secteur des semi-conducteurs qui gagne 90% depuis le début de l'année?
D'abord, il faut se rappeler que, comme vous l'avez dit, on va peut-être signer la 10e semaine de hausse d'affilée sur le S&P 500 alors que le conflit et la guerre au Moyen-Orient est toujours pas réglée et qu'on l'attend de jour en jour. Et donc ça peut paraître paradoxal, puisqu'on se disait, s'il y a un choc inflationniste, ça ralentit l'économie. Et donc finalement, est-ce que le marché boursier est hors sol? Ça, c'est la première question. Et la réponse, c'est que non, parce que le marché, il est boosté par deux choses. Il a été d'abord boosté par les réévaluations des profits des grandes compagnies aériennes qui pèsent lourd dans les indices. Et la deuxième chose, deuxième phénomène, c'est la révision à la hausse des investissements dans le domaine de la tech. On a une accélération des investissements dans la tech. Et ce scénario, cette equity story boursière, eh bien, elle peut perdurer puisque on assiste en ce moment même à des levées de fonds assez importantes pour nourrir à nouveau des investissements massifs. On a Google, Alphabet qui lève plus de 80 milliards, près de 85 milliards de dollars. On va avoir dans quelques heures SpaceX qui va lever 75 milliards pour investir aussi dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc on a des investissements qui sont massifs et ces investissements se portent essentiellement sur les data centers et sur la puissance de calcul. Et là, on le voit en bourse qui bénéficie le mieux de cet Eldorado d'investissement. C'est un sous-secteur qui, maintenant, dans les pondérations, n'est plus du tout un sous-secteur, qui est le sous-secteur des semi-conducteurs. Il y a quelques années, on ne parlait même pas du secteur des semi-conducteurs, on parlait du secteur de la tech. Mais maintenant, les semi-conducteurs prennent toute la lumière. Bien sûr, aux États-Unis, parce que Nvidia, première capitalisation mondiale, 5300 milliards de dollars de capitalisation, encore en hausse de 15% depuis le début d'année, mais aussi en Europe. En Europe, au sein de l'Eurostox 50, eh bien, les semi-conducteurs, c'est 14% de la pondération de l'indice. 14%, alors qu'on dit que la tech, les semi-conducteurs, ça se passe qu'aux États-Unis. C'est en partie vrai, mais on a quelques atouts en Europe.
Merci à ASML quand même. Hein.
Merci à ASML. ASML à elle seule, c'est 11,5% de la pondération du Stox, l'Eurostox 50. Bien sûr, ASML, c'est le champion incontestable en Europe sur les machines qui permettent de graver finement les semi-conducteurs. Autrement, tout joue, c'est vrai, ou aux États-Unis ou en Asie et notamment en Corée, même si on le voit, on a quelques champions, mais nos champions, nous, ils sont plutôt sur les puces analogiques. Les ST Microelectronics en France et en Italie, c'est un franco-italien, Infineon en Allemagne, NXP aux Pays-Bas, ce sont des acteurs qui fabriquent des puces analogiques, des puces très utiles, bien sûr, pour votre smartphone et pour votre véhicule, votre auto, mais qui ne servent pas du tout à l'IA. Et l'IA, bien sûr, c'est du Nvidia. Ou autrement, mais ça, c'est la nouvelle histoire boursière racontée, ce sont les puces mémoire. Les puces mémoire, et là, vous avez des acteurs champions. Micron Technologies qui gagne 250% depuis le début de l'année aux États-Unis. Et puis, bien sûr, les Coréens, les Sud-Coréens, Samsung, Skynix, qui, eux, ont des cours qui s'envolent et qui font flamber, bien sûr, à eux deux, toute Séoul.
Pour ceux qui nous suivent à la télévision, c'est titré « Comment garder la tête froide ?» Oui, j'ai écrit « Comment garder la tête froide ?» parce que aujourd'hui, on est sur un secteur qui domine les indices, hein, vous l'avez dit, que ce soit en Europe, mais aussi aux États-Unis. Et puis, on le voit encore. En début d'émission, tout à l'heure, on parlait d'Iberdrola. Thomas Guérin nous dit « Bah oui, en fait, Iberdrola profite des data centers. » Schneider Electric, c'est la même chose. J'entends la même chose pour Air Liquide, pour Veolia. C'est-à-dire qu'en fait, même quand on souhaite se diversifier sur des valeurs défensives, sur les utilities, bah en fait, on a à nouveau le mot intelligence artificielle.
C'est le fameux ruissellement, parce que là, lorsqu'on voit que là, il y a des prises de bénéfices en ce moment même sur les acteurs des semi-conducteurs, eh bien, vous avez Legrand, Schneider Electric, qui baisse. Cette semaine, on a eu une flambée du cours de bourse de Valeo, parce qu'on se dit que finalement, avec leur système de refroidissement, ils vont peut-être travailler sur les data centers. On est un petit peu ce qu'on a vécu dans les années 90, début 2000, les fameux dot-com, où on se disait tout le monde va travailler qu'Internet. La vérité, c'est que effectivement tout le monde travaille sur Internet, mais tout le monde ne va pas tirer les mêmes profits. Mais c'est vrai que là, on a un Eldorado, une vague extrêmement puissante. C'est d'abord extrêmement compliqué pour les gérants de passer à côté de cette vague. Donc finalement, il y a peu de vendeurs. Et le moindre acheteur, bien sûr, améliore les cours de bourse. Et donc, on a toujours un courant acheteur, pas de vendeurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de se dire « je vais passer de la tech ».
Donc tout le monde jusqu'au jour où ? Parce que c'est la grande question.
Jusqu'au jour où. Et donc la question, c'est quand est-ce que cette histoire va s'arrêter ? Ouais. Et là, quand on regarde l'histoire boursière, il y a, j'ai envie de dire, deux scénarios possibles qui vont montrer que l'histoire s'arrête. Premier scénario, c'est le scénario fin de l'histoire des GAFAM. L'histoire des GAFAM, ça a commencé en 2010 jusqu'en 2021, où là, il y avait toutes les GAFAM montaient. Et 2022, choc inflationniste. Les banques centrales montent les taux et là, on a une rotation sectorielle extrêmement puissante en faveur de la value, en faveur des financières, Et là, on a eu les GAFAM qui ont pas les Google, Apple, Facebook, Amazon, qui ont eu des années, enfin une année difficile en 2022. Et après, bien sûr, fin 2022, le grand public redécouvre la puissance de ChatGPT. Et là, on raconte une nouvelle histoire sur la tech. Donc, il peut y avoir un choc inflationniste et une forte hausse des taux des banques centrales. Pour l'instant, c'est pas le scénario qui se dessine. Même si on voit que la BCE, la Banque centrale européenne, réfléchit à une hausse des taux, mais il faudra quand même une hausse assez vigoureuse. Ça, c'est un scénario qui est possible, mais pour l'instant, peu probable. Autre scénario, c'est qu'on se fait totalement des films sur la rentabilité générée par l'intelligence artificielle. On s'était fait des films dans les années 2000 sur l'arrivée d'Internet où tout le monde se disait on va avoir Internet sur notre téléphone très rapidement. Sauf que en 2000, on a eu un crack parce que l'Internet sur le téléphone, eh bien, ça a commencé seulement en juin 2007 avec le premier iPhone d'Apple. Et c'est là qu'on a eu un regain d'intérêt sur la tech. Donc, il peut y avoir des retards sur les investissements et un choc inflationniste avec des hausses de taux qui peut mettre fin à cette histoire. Pour l'instant, on ne la voit pas venir, d'autant que Anthropic, qui prépare son introduction en bourse, est en train de faire fuiter un peu partout que ça y est, maintenant, ils sont rentables.
Ouais, ils sont rentables. À voir comment ça va se passer. Hein. Le dossier a été déposé auprès de la SEC. Investir à partir de demain dans les kiosques. Comment vous accompagnez vos lecteurs là pour être diversifiés?
Ah ben, on dit qu'il faut toujours être diversifié. Nous, bien sûr, on reste pas à l'écart de la tech. On pense que les semi-conducteurs, il faut en avoir, mais pas trop. L'idée, c'est de pas dépasser les 10% dans les portefeuilles de semi-conducteurs, avec des semi-conducteurs, bien sûr, aux États-Unis. Ça peut être du Micron Technology où on est extrêmement positif, ou en Europe, de Infineon ou ASML. Mais aller au-delà de 10%, ça me paraît être un petit peu risqué. D'autant que, je rappelle les chiffres, hein, on a quand même des hausses qui sont vraiment spectaculaires. Quasiment tout le secteur a gagné entre 100 et 200. Soitec, là, qui est la grande recovery depuis le début de l'année, on est sur un gain de 574%. Donc ça va vite. Attention, il peut y avoir quand même des prises de bénéfices qui pourraient être violentes.
Merci beaucoup. François Monnier nous a accompagné ce matin en plateau, le directeur de la rédaction d'Investir. 9h25, il nous reste 4 minutes pour parler de la séance en cours avec Charles Janus. Bonjour Charles Janus, merci de nous accompagner à distance, directeur général de la Belle Épargne. Le CAC 40 est quasi stable, 0,1% de progression, 8249 points, avec donc des prises de bénéfices hein, sur, on en parlait il y a un instant avec François Monnier, ce secteur des semi-conducteurs, moins 3 pour STM, moins 5 pour Soitec. Comment vous regardez un petit peu ce qui se passe en ce moment? Le CAC 40 est bien parti pour signer une troisième semaine dans le vert.
Oui, bonjour Étienne, tout d'abord, ravi de vous retrouver. Et puis effectivement, le CAC 40 a signé une belle séance de rebond hier qui contraste avec la tech américaine. Heureusement, pour une fois, le CAC 40 est faiblement pondéré en semi-conducteurs. Donc en fait, on a des secteurs différents qui ont participé à la hausse, hein, la santé, le logiciel, l'aéronautique ou encore les financières. Donc on voit qu'on s'est appuyé sur plusieurs secteurs hier, ce qui est plutôt encourageant. On avait une hausse qui était plutôt large. Alors maintenant, il faut confirmer ce mouvement. Hein. Ça va être le plus important. Pour l'instant, l'indice, il est, vous l'avez rappelé en début d'émission, sur un seuil clé majeur, les 8250 points. C'est la grosse résistance clé hebdomadaire qu'il faut franchir. Tant que ce niveau n'est pas franchi durablement en clôture, ça sera très compliqué pour libérer du potentiel sur l'indice parisien. Mais si jamais ça arrivait, on a un potentiel technique qui est très important. Puisqu'en fait, l'indice parisien, ça fait 10 jours maintenant qu'il est bloqué sous les 8250 points. Et il a formé ce qu'on appelle un drapeau. Alors cette figure d'analyse technique, elle n'existe que si elle est déclenchée, donc seulement en clôture au-delà de 8250 points. Si jamais on venait à clôturer au-delà de ce seuil technique, eh bien ça va libérer un potentiel d'à peu près 3-4% sur l'indice parisien. Et on pourrait aller rejoindre comme objectif final les 8555 points qui correspond à la borne haute d'un gap qui a été laissé ouvert début mars par le marché et qui correspond tout ou prou à la proximité des ATH. Donc vous le comprenez, on a plutôt un biais qui est constructif puisqu'on a une base assez large pour avoir un rebond au sein des valeurs du CAC. Ça fait plusieurs jours qu'on accumule sous cette résistance. On voit que ce matin, on tente à nouveau un dépassement. Pour l'instant, on a une très faible consolidation. On est autour de la neutralité pour l'instant. Donc voilà, constructif, tant qu'on s'est tué aux alentours des 8250 points, maintenant il va falloir vraiment franchir ce niveau. Et à l'inverse, si notre scénario central ne se réalise pas, donc le franchissement à la hausse, il faudra faire attention à la zone des 8100 points et en cas de clôture sous ce niveau, attention, on pourrait avoir un retour sur le bas du trading range hebdomadaire. dans la zone des 7900 points, mais c'est pas notre scénario central à ce stade.
En moins d'une minute, en termes de secteur d'allocation, est-ce que vous avez revu des choses là dernièrement à la Belle Épargne après donc c'est 9 voire peut-être 10 semaines dans le vert pour le S&P 500?
Oui, on pense que les opportunités de marché vont plutôt se trouver moins du côté des valeurs dites en momentum, donc tout ce qui était semi-conducteur par exemple, va plutôt aller regarder du côté des logiciels où selon nous, il y a des bonnes affaires à faire. On a des très bonnes valorisations attractives qu'on n'a pas vues sur certains dossiers depuis 10-15 ans. On était dans des dynamiques baissières, les graphiques se sont mis à plat sur ces valeurs-là, avec des rebonds significatifs, 8, 10, 15, 20% sur certains dossiers. Donc on a certainement touché un point bas de court et moyen terme sur ces dossiers-là. Donc on pense qu'il y a un potentiel à très court terme déjà d'avoir une embellie sur ces dossiers-là. Et puis à long terme, on pense que c'est un bon point d'entrée pour les investisseurs qui veulent repondérer ce secteur-là dans les portefeuilles.
Très clair. Merci beaucoup Charles Janus, nous a accompagné ce matin, directeur général de La Belle Épargne. Le CAC 40 est parfaitement stable. À suivre cet après-midi, l'emploi américain à 14h30 et puis bien sûr la séance américaine. Tout ça, ça sera à suivre dans BFM Bourse à partir de 15h30 avec Guillaume Sommerer. Dans un instant, les experts. Et puis à 11h, vous retrouvez bien sûr Tout pour investir, la masterclass avec Christopher Dembick. Très bonne journée.
Good Morning Market sur BFM Business.